Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour le grand rendez-vous de l'information sur Radio Okapi. Au menu ce soir, les faits marquants de l'actualité à Kinshasa et dans les provinces, mais aussi un regard sur l'actualité internationale. Merci de votre fidélité à la présentation Gisèle Cage. RDC, plus de 1200 violations de droits humains documentées en un mois. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un tableau préoccupant de la situation sécuritaire et humanitaire. L'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu concentrent à eux seuls 80% des cas recensés. Mongoualou, des signes encourageants dans la lutte contre Ebola. La mortalité liée à la maladie est en baisse, mais l'insécurité et l'enclavement continuent de compliquer la surveillance sanitaire dans les localités périphériques. Kinshasa, la fondation Gram renforce les capacités entrepreneuriales de 200 femmes. Les bénéficiaires déjà formées dans plusieurs métiers ont suivi une formation en éducation financière avant de recevoir un accompagnement matériel. Entretien avec Julie Nsouele, présidente de la fondation en fin de journal. Les violations de droits humains demeurent une source de vives préoccupations en République démocratique du Congo. Plus de 1200 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été documentées au cours du seul mois de mai, dont 59 cas de violences sexuelles. Un bilan alarmant dressé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans son rapport publié ce vendredi, le BCNUDH fait état d'une dégradation préoccupante de la situation sécuritaire et humanitaire. L'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu concentrent à eux seuls 80% de violations recensées. Les détails avec Ronny Lintimbonera.
L'augmentation est brutale. Plus de 26% des violations et plus de 20% des victimes en un mois. En mai 2026, le BCNUDH a documenté au moins 881 violations de droits humains ayant touché près de 1200 personnes sur l'ensemble des territoires. Cette hausse s'explique principalement par l'intensification des violences dans l'est du pays. Le Province du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri concentre à elle seule plus de 80% des exactions sous les coups des attaques des ADF, du 123 ou encore de la LRA. Sur le plan des violences sexuelles liées au conflit, les rapports comptabilisent 59 victimes, majoritairement des femmes et de jeunes filles. Si les chiffres globaux baissent par rapport à avril, les acteurs étatiques, principalement des militaires FARDC, sont désignés comme premiers responsables de près de la moitié de ces exactions devant les groupes armés. Toutefois, le BCNIDH salue la progression de la justice. Tenez, au cours du mois, 66 poursuites judiciaires ont été engagées contre des militaires, des policiers et des civils, aboutissant à près de 50 condamnations pour violences graves.
Et sur le terrain, les violences continuent de donner raison à ces inquiétudes. À Massissi Centre Nord Kivu, la nuit de jeudi à vendredi a été marquée par des violents combats entre les Wazalendo et le rebelle de l'AFC M23. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus pendant plusieurs heures, plongeant les habitants dans la psychose. À ces stades, aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais les activités restent largement perturbées dans la zone. Le point avec Gloriane Lepéa.
Des tirs nourris ont été entendus de 23h jeudi jusqu'à l'aube ce vendredi à Massissi Centre et dans les villages voisins, rapportent des sources locales. Selon ces dernières, les affrontements auraient débuté à Boisdo, à plus de 5 km de Massissi Centre, avant de s'entendre vers les chefs-lieux du territoire. Le quartier Kani et Rona, ainsi que les alentours de l'hôpital général de référence des Massissi, ont été particulièrement affectés par les détonations. Certaines sources indiquent qu'une coalition de combattants Wazalendo auraient attaqué les positions de l'FC M23 à Boisdo. Les bilans restent difficiles à établir. En réaction, les rebelles auraient utilisé l'artillerie depuis leur position autour des Massissi Centre. De sources humanitaires évoquent toutefois des pertes humaines et les déplacements de plusieurs ménages vers l'hôpital général de référence des Massissi. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans ces territoires depuis plusieurs mois, malgré les appels répétés au respect du cessez-le-feu.
Autre actualité dans l'est du pays, une lueur d'espoir face à Ebola à Mongwalu, l'un des épicentres de l'épidémie. Les structures sanitaires font état d'une baisse de décès liés à la maladie. Une amélioration attribuée à l'engagement des communautés dans le respect des mesures barrières. Toutefois, la vigilance reste de mise. Des cas suspects et de décès continuent d'être rapportés dans les localités périphériques difficilement accessibles en raison de l'insécurité et du mauvais état de route. Les détails dans ce papier d'Isaac Remoyope avec la voix de Jean-Désiré Kanyama.
À Mongwalu centre, des dispositifs de lavage des mains sont installés devant les boutiques, les marchés et d'autres lieux publics. Les rassemblements populaires se font de plus en plus rares. Ces changements traduisent une meilleure prise de conscience de la population face à cette épidémie qui a fait de nombreuses victimes, notamment dans les quartiers Chouni 1 et Chouni 2 au début de la flambée. Selon des sources médicales, aucune augmentation de décès n'a été enregistrée ni au centre de traitement Ebola, ni au sein de la communauté depuis plus d'une semaine. En revanche, la situation reste préoccupante dans les zones périphériques de Mongwalu. C'est notamment le cas dans la zone de santé de Damas, où les équipes de riposte peinent à accéder aux populations à cause du mauvais état des routes et de la réticence de certains habitants. Des inquiétudes persistent également dans les quartiers Sayo et les villages environnants où la présence des groupes armés complique les activités de sensibilisation et de riposte. Des démarches sont toutefois en cours pour obtenir l'adhésion de ces groupes aux efforts de lutte contre Ebola. Par ailleurs, d'autres malades pris en charge à Mongwalu proviennent de la zone de santé de Kilo, située à une trentaine de kilomètres. Les autorités sanitaires appellent enfin toute la population de Mongwalu et de ses environs à maintenir les respects stricts des mesures barrières afin de freiner davantage la propagation de l'épidémie.
Face à la menace persistante d'Ebola, le gouvernement veut voir la réalité du terrain de plus près. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est rendue ce vendredi à Mongwalu, l'un des principaux épicentres de l'épidémie en Ituri. Sur place, elle a visité la principale structure de prise en charge avant de tenir des séances de travail avec les autorités politico-administratives, les acteurs de la riposte et les partenaires humanitaires. Objectif, évaluer l'efficacité des mesures en cours et identifier les actions à renforcer pour freiner durablement la propagation de la maladie. Après Ebola en Ituri, direction le Maniema où la grogne de médecins ne faiblit pas. En grève depuis plusieurs jours, ils durcissent leur mouvement en abandonnant le service minimum au profit de l'opération Hôpitaux sans médecin. Le syndicat national des médecins affirme qu'aucune reprise de travail n'est envisagée sans réponse concrète du gouvernement à ces revendications. Une position réaffirmée jeudi à Kindu par le secrétaire exécutif provincial du SINAMED. Pour mesurer l'impact de cette grève sur les patients et le fonctionnement des services de santé, Florence Kizalunga s'est rendue à l'hôpital général de référence de Kindu. Voici son reportage.
Dans ce grand hôpital provincial d'une capacité d'accueil de 240 lits, seul le médecin directeur et médecin chef de staff prennent soin du malade. Le médecin directeur, Dr Famba Ramazani, exprime son ras-le-bol.
C'est depuis le début du mois que la grève a été radicalisée et nous travaillons maintenant difficilement parce que dans la philosophie de la lettre des syndicalistes, il n'y a que le médecin directeur et le médecin chef de staff qui doivent travailler. Vous voyez, il y a un grand hôpital comme celui-là, qui reste avec deux médecins. Donc, nous travaillons difficilement à tel point qu'on est épuisé.
Du côté du syndicat national des médecins, pas question de reprendre les services avant d'être répondu. Docteur Marc Toutou est secrétaire exécutif du SINAMED Maniema.
La grève continue sous format hôpitaux sans médecins. Donc, au Maniema, la grève continue jusqu'à la concrétisation des engagements du gouvernement. C'est entre autres l'intégration de la paye complémentaire à la paye du mois de juillet et le paiement des arriérés des 4 mois de la paye complémentaire ainsi que l'alignement des 800 médecins par trimestre.
Vu cette situation, certaines personnes préfèrent aller se faire soigner dans les structures privées que publiques. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Olomami, la pression aura finalement eu raison de deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Le président du bureau et le questeur ont présenté leur démission de leurs fonctions respectives. Dans des correspondances adressées jeudi au président du bureau d'âge, les deux responsables ont officialisé leur départ. Le président évoque des raisons de convenance personnelle, tandis que le questeur justifie sa décision par la nécessité de favoriser un rajeunissement de l'équipe
équipes dirigeantes pour un meilleur fonctionnement des institutions. Ces démissions interviennent dans un contexte particulier, les deux membres du bureau étant déjà visés par une pétition depuis le mois de mai dernier. À Matadi, la contestation monte autour de la taxe conventionnelle de réhabilitation et d'entretien des routes. De plus en plus, des motocyclistes refusent de s'acquitter de cette contribution de 1000 francs congolais, estimant qu'elle ne se traduit pas par une amélioration visible de l'état des routes. Face à cette grogne, la Direction générale de recettes du Congo central rappelle que cette taxe demeure obligatoire et assure qu'elle contribue au financement de travaux d'entretien routier. Reportage Élise Cavira.
Pour plusieurs motocyclistes, la TCRE reste une taxe aux retombées invisibles. C'est aussi l'avis de Jirest Ndombe, motocycliste dans la ville.
Chaque jour, je paye le jeton, mais je ne sais pas où va cet argent, ni ce qu'ils en font.
En réponse aux multiples préoccupations des motards sur l'utilité de cette taxe, Nzao Boyango José, directeur des recettes non fiscales à la DGRKC, apporte des éclaircissements.
Quand on vérifie, ce sont des amis qui n'appartiennent à aucune association. Or, dans cette taxe, l'État rétrocède 9% aux associations des motocyclistes. Alors on leur fait voir que pour qu'ils soient bénéficiaires de ce que l'État rétrocède, il faudrait qu'ils appartiennent à une des associations parmi les associations agréées.
Mais cet argument ne convainc pas tous les motocyclistes. Ngoma Paul, par exemple, affirme que les retombées de cette rétrocession ne profitent qu'aux responsables des associations.
Ce sont les présidents des associations qui bénéficient seuls de cet argent. Notre préoccupation est qu'on nous trouve au moins un hôpital où nous pourrions bénéficier d'une prise en charge médicale. Ainsi, nous profiterions nous aussi de cette rétrocession.
Face à ces réticences, la DGRKC a lancé une campagne de terrain pour sensibiliser les motards à rejoindre les associations et bénéficier de la rétrocession de la taxe des circulations routières. Matadi. Élise Cavira, Radio Okapi.
À Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, un aliment incontournable s'est fait de plus en plus rare sur les étals des marchés. Le feuille de manioc, très apprécié dans les ménages, devient difficile à trouver en cette période des saisons sèches. Conséquence, les prix flambent et de nombreuses familles, notamment les plus nombreuses, peinent à s'en procurer. Face à cette pénurie, d'autres légumes comme les amarantes ou les choux des Chine gagnent du terrain grâce à des prix plus accessibles. Mais certains consommateurs restent sceptiques quant à leur mode de production. Reportage d'Esther Dalafina.
Au marché central, les feuilles de manioc habituellement vendues en abondance deviennent un produit rare pendant cette saison sèche. Une vendeuse affirme parcourir de longues distances pour s'approvisionner.
Ces jours-ci, c'est vraiment difficile. On marche beaucoup pour trouver les feuilles de manioc. Les propriétaires des champs ont aussi augmenté des prix.
Cette rareté entraîne une hausse de prix. Un botte de feuilles de manioc qui se vendait à 500 francs se négocie désormais à 1000, parfois 1500 francs congolais. Même les restaurants peinent à en servir en quantité, signe que l'accès à ces légumes est devenu un véritable défi. Confirmation d'Alphonsine Tanga, responsable du restaurant Mama Alpho.
Pour le moment, l'effet de manioc ne se fait pas avoir. Un louche, nous vendons maintenant à 1000 francs. Avant, on vendait à 500 beaucoup. Il n'y a que des choux et des amarantes.
Face à cette situation, certains consommateurs se tournent vers les amarantes et les choux de Chine de plus en plus visibles et aux prix accessibles. D'autres ménagers par contre, déplore le fait que ces légumes sont parfois cultivés avec des engrais chimiques qui les rend moins rassurants pour la consommation quotidienne. Malgré sa rareté, plusieurs ménagères affirment que la feuille de manioc reste au cœur des habitudes alimentaires. Elle se mange au foufou, au riz, à la banane et au manioc. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Beni, les vacances scolaires transforment le quotidien de nombreux enfants, mais elles soulèvent aussi des préoccupations sanitaires. Depuis plusieurs semaines, rues, terrains vagues et espaces publics de la ville accueillent chaque jour de nombreux enfants en congé. Si pour certains, il s'agit simplement de profiter des vacances, pour les acteurs de la protection de l'enfance, ces longues heures passées loin de regard de parents suscitent des inquiétudes. Dans un contexte marqué par l'épidémie d'Ebola, qui sévit dans la région, il redoute une plus grande exposition des enfants au risque de contamination et appelle les familles à renforcer leur encadrement durant cette période. Reportage Martial Papimoukeba.
Il joue, déambule ou passe une grande partie de la journée dans les lieux publics de Beni. Pendant ces vacances scolaires, la présence d'enfants sans accompagnement dans les riz est devenue plus visible. Une situation qui préoccupe certains parents comme celui-ci.
Beaucoup d'enfants sont en train de circuler en vue de Béni sans savoir exactement où ils veulent aller. Et le fait pour eux de circuler les expose à plusieurs risques. C'est notamment le virus qui circule de façon silencieuse dans la ville. Il y a aussi les dangers en lien avec la circulation routière. En dehors de ça, les enfants sont également exposés au risque d'enlèvement, de kidnapping, au travail forcé, à l'exploitation aussi.
Pour Joël Kavuya, encadreur principal du Parlement d'enfants de Beni Boutembo Lubero, cette situation nécessite une plus grande vigilance.
La protection de l'enfant commence d'abord dans la famille. Avec l'épidémie Ebola, il est important que les parents soient encore plus vigilants, qu'ils connaissent les déplacements de leurs enfants et qu'ils les accompagnent pendant cette période des vacances. Prudence exige.
Les vacances se poursuivent jusqu'à fin août avec un appel à mieux encadrer les enfants. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Cour d'appel de Bamako a condamné 6 personnalités à des peines comprises entre 7 et 15 ans de prison. Parmi les condamnés figurent plusieurs proches de l'ancien président de transition, Bandao. 4 accusés, dont l'ex-chef de la sécurité d'État, écopent de la peine la plus lourde, 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et complot contre le gouvernement. Du côté de la défense, le verdict suscite l'indignation. Les proches des condamnés dénoncent un procès entaché d'irrégularité et parle d'un véritable déni de justice. Et puis les États-Unis ont annoncé une nouvelle enveloppe de plus de 200 millions de dollars destinée au Comité international de la Croix-Rouge CICR et à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge FICR. Cette contribution comprend près de 133 millions de dollars pour l'appel mondial 2026 du CICR et 70 millions de dollars pour la FICR. Selon Washington, ce financement vise à permettre une réponse plus rapide et plus flexible aux crises humanitaires, aux conflits et aux catastrophes naturelles en s'appuyant sur les réseaux déjà déployés sur le terrain.
L'invité.
Promouvoir l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat et l'éducation financière. C'est l'objectif de la formation organisée le 19 juillet dernier à Kinshasa au profit d'environ 200 femmes. Une initiative portée par la Fondation Grâce à ma mère, Gram, pour renforcer les capacités des participantes ayant déjà suivi des formations en coupe et couture, esthétique, maquillage et transformation agroalimentaire. Au terme de cette session, des kits d'appui leur ont été émis afin de faciliter leur insertion économique et le développement de leurs activités génératrices de revenus. Invitée de Radio Capi, la présidente de la Fondation Gram, Julie Nsuele, s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Julie Nsuele.
Bonjour Monsieur Blaise Ndongala.
La Fondation Grâce à ma mère a formé plus de 200 femmes et filles quinoises sur l'entrepreneuriat. Quelles ont été vos motivations?
Au niveau de la Fondation Grâce à ma mère, nous faisons la promotion de l'autonomisation économique de la femme congolaise. Mais pour parler de l'autonomisation, il faut entreprendre. À côté de l'entrepreneuriat, nous à la Fondation Grâce à ma mère, nous offrons des formations techniques, notamment la coupe et couture, l'esthétique générale, la coiffure, les make-up, la fabrication des jus, des gingembre, des chips et la transformation agroalimentaire pour permettre à ces femmes de commencer le micro-entrepreneuriat. Mais il ne suffit pas seulement de donner une formation technique où elles acquièrent des compétences, mais il faut associer à cette connaissance technique-là la gestion de ces micro-entreprises. Voilà pourquoi, à côté de cette formation des métiers techniques qu'on donne, on associe toujours la formation en entrepreneuriat et éducation financière. L'entrepreneuriat pour permettre à ces femmes de mieux connaître le rouage entrepreneurial, comment mieux gérer leur activité pour que ça ne reste pas une activité de survie, mais plutôt une activité portée à la croissance. Nous leur donnons les béaba de l'entrepreneuriat, notamment les calculs du capital, des recettes, les marges, les charges, comment équilibrer les charges pour que l'entreprise puisse être croissante au fait. Parce que l'idée, c'est commencer petit, mais pour grandir dans les années à venir, d'où la bonne gestion.
Quels ont été les critères de choix des bénéficiaires de ces différentes formations?
La Fondation Grâce à ma mère est là pour rélever la femme. Que ça soit une femme désœuvrée, que ça soit une femme active, que ça soit une femme en cessation d'activité ou une femme chômeur. Notre objectif, c'est pousser la femme à devenir autonome. Donc, il n'y a pas de critères aussi contraignants pour la femme. Les conditions pour bénéficier de nos formations, il faut d'abord être une femme adulte, être majeure à partir des 18 ans révolus, avoir étudié ou pas, ça ne nous pose pas un problème parce qu'on donne l'opportunité à celles qui n'ont pas eu la chance d'aller peut-être loin dans les études ou celles qui ont étudié mais qui sont au chômage ou d'autres femmes qui sont au ménage. Donc, nous, notre condition, c'est juste être adulte à partir des 18 ans, remplir votre fiche d'adhésion pour devenir membre à la Fondation Grâce à ma mère et être disponible, parce que généralement les formations, c'est des formations de 2 à 4 mois, être disponible pour participer aux formations métiers.
Bénéficiez-vous de l'appui de quelques partenaires dans la réalisation de toutes vos actions?
En 5 années d'existence, nous travaillons sur fonds propres, mais cependant, on a quelques partenaires potentiels qui, de temps en temps, nous appuient, notamment avec la remise des kits qu'on offre aux femmes, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, les formations que nous donnons sont 100% gratuites. Les bénéficiaires viennent juste elles-mêmes et puis elles trouvent tout sur les sites des formations, tout le matériel des formations. Et à la fin de cette formation-là, nous leur remettons des kits AGR, qu'on appelle les kits des activités génératrices de revenus. Ce sont des matériels, des équipements pour leur permettre de commencer une activité. Donc, pour obtenir ces équipements-là, nous sollicitons quelques partenaires qui, de manière ponctuelle, nous assistent. Par là, j'annonce déjà pour ce mercredi 29 juillet 2026 au Pullman Grand Hôtel, nous aurons la cérémonie de remise des 8 à ces 200 femmes qui ont bénéficié de ces formations-là. Et pour ça, nous avons eu l'appui des Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, qui a accepté de contribuer avec l'acquisition de certains lots. On a des femmes en coupé couture. Il y a Vlisco aussi qui a accepté d'accompagner quelques femmes dans la réalisation ou dans l'acquisition des kits.
Madame Julie Souélé, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous remercie, Monsieur Blaise, pour cet entretien.
Renforcer les compétences, encourager l'entrepreneuriat et promouvoir l'autonomie financière des femmes, c'était là l'essentiel de cet échange avec Julie Souélé, présidente de la Fondation Gram, au micro de Blaise Ondonga Mayanda. Ainsi s'achève cette édition du journal de 18h de ce vendredi 24 juillet. Merci de l'avoir suivi sur Radio Capi, la fréquence de la paix. La présentation était assurée par Gisèle Cage, en mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Pour suivre l'actualité en continu, rendez-vous sur notre site internet www.radiocapi.net. Retrouvez également Radio Capi sur ses plateformes numériques, notamment Facebook, X, YouTube, Instagram, WhatsApp et Telegram. Merci de votre confiance et très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.